Quentin Dupieux, bonjour. Alors, très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie le 13 septembre de Yannick. Film que vous avez, pour lequel vous avez flashé, surtout avec l'alchimie entre Raphaël Quenard et Blanche Gardin. C'était le 16 mai 2022, à l'issue de la soirée, enfin la nuit, d'allais-je dire, de Fumer fait tousser. Mais à quel moment, finalement, avez-vous eu cette idée du génie du sujet de Yannick ?
Non, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, pour l'anecdote, j'assiste à la projection de mon film à Cannes, de mon film Fumer fait tousser, pendant laquelle je m'ennuie. C'est-à-dire que je pense que le sujet est né à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est inconscient, hein, mais je me suis moi-même ennuyé.
À votre propre film.
À mon propre film, ce qui arrive.
Vous l'aviez déjà vu quand même quelques fois.
Voilà, ça arrive très fréquemment. Après, c'est pas le cas tout le temps. Il y a des films que je prends plaisir à regarder, quoi qu'il arrive. Mais celui-là, à ce moment-là, avec tout le tralala de Cannes et tout ce bordel, les costumes, la montée des marches, etc., j'avais l'impression d'assister à un film assez mineur. Je me suis ennuyé. Oh. Et effectivement, mon intérêt s'est réveillé quand on est arrivé dans ce segment du film. Donc, pour les gens qui ne l'ont pas vu, qui ne connaissent pas, il y en a plein. Il y a un segment du film dans lequel jouent Blanche Gardin et Raphaël Quenard ensemble dans une scierie. Eh bien, donc ça arrive à peu près vers la moitié du film ou juste un peu avant la fin. Ce moment-là m'a réveillé et j'ai trouvé. C'est pas que je trouvais les autres moins bons, mais il y avait une authenticité dans cette scène entre Blanche et Raphaël qui m'a inspiré. Je me suis dit qu'en fait j'avais envie, j'ai eu très envie de capturer un peu plus de cette authenticité. C'est-à-dire que Fumer fait tousser, c'est un film qui est très déconnant et qui est un peu gadget, on va dire. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'accroche avec les personnages, il n'y a pas d'accroche avec les comédiens. C'est un peu un programme qu'on regarde comme ça, comme un truc. Voilà, certains diront c'est un stoner movie. Effectivement, j'imagine que c'est un film qui passe mieux avec des substances. Mais bref, ce passage qui est très réaliste et que j'ai tourné un peu comme un film des frères Dardenne. D'ailleurs, c'était une blague sur le plateau quand on a tourné ce segment. C'était la fin du tournage. Je disais à tout le monde, on est dans un Dardenne. Il faut l'aborder comme un Dardenne. C'est-à-dire qu'il y a un drame à l'usine et les personnages essayent de régler le drame. Et voilà, c'était un peu une idée comme ça qu'on s'est mis en tête pour rigoler. Mais au final, c'est ce que j'ai ressenti. Il y avait une authenticité dans le jeu des comédiens, même si la scène est absurde. Il s'agit d'un gamin qui se fait broyer dans une machine, mais qui n'a pas mal. La scène était tellement absurde que voir ces comédiens la vivre au premier degré avec autant de brio, en tout cas c'est ça qui m'a donné le point de départ d'avoir envie d'écrire un film entier pour Raphaël Quenard. Et puis s'en est suivi une soirée merdique à Cannes dans une boîte de nuit bondée où d'un seul coup il s'agit plus de cinéma. Mais on est dans un espèce de bordel avec que des gens en smoking et c'est très ennuyeux. Et ben avec Raphaël on a discuté et on s'est dit viens on fait un truc ensemble parce qu'on a trop envie. Voilà, je suis reparti le lendemain avec mon chien et ma voiture vers chez moi et sur la route une émission de radio France Culture qui parle de théâtre et c'est à ce moment-là je pense que dans ma tête mon ennui face à la projection, l'envie de travailler avec Raphaël et le théâtre, tout ça, ces trois informations se sont réunies.
Alors, tournage dans le plus grand secret, donc au théâtre des Jazés, 3e arrondissement. Comment est-ce possible au boulevard du Temple de passer 6 jours inaperçus ? Alors, vous aviez des casquettes, des lunettes noires, des manteaux ?
Mais inaperçu comment ? Parce que non, parce qu'en fait, on entrait dans ce théâtre à 5h du matin et on en ressortait à 20h ou à 21h. Donc
en fait. Parce qu'avec tous les réseaux sociaux, c'est vrai qu'un tournage secret, ça existe plus quand même.
Ouais, alors on a essayé de ne pas ébruiter ce tournage pour voilà tout simplement pour il y avait un esprit de surprise. Moi je depuis le début c'était un projet surprise puisque j'étais aussi moi en train de préparer mon autre film qui est un film plus conséquent sur Salvador Dali. Je n'avais pas envie non plus d'aller.
Félicitations pour Venise.
Ah merci beaucoup. Je ne voulais pas interférer sur la préparation de l'autre film. Donc c'est aussi un peu pour ça que je l'ai fait cacher loin des regards. Et puis aussi parce que je crois que je cherchais un truc authentique, encore une fois, qui demandait un petit peu ce... comme un laboratoire, en fait, comme un truc... voilà, éviter d'en parler, plutôt le faire... pour en parler ensuite, mais ne pas en parler avant, parce que souvent on parle des films avant, c'est-à-dire qu'on annonce le casting, on annonce les dates de tournage et on frime un peu, ah tiens, cette fois voilà mon casting, voilà le, et on commence à envoyer l'info,
à faire mousser les gens
à l'avance. Là, je savais qu'il fallait d'abord aller chercher une pépite avant de faire mousser qui que ce soit.
Changement de ton, donc assez radical. Alors, on est surpris de ne pas être surpris. Et on a l'impression, c'est les premières minutes, j'allais dire les premières secondes, de se trouver une représentation du théâtre ce soir. Ça va vite changer, je rassure quand même vos admirateurs.
Oui.
Et bien entendu, tout part en couille. Ça, c'est votre grande spécialité. Mais c'est vrai que c'est assez un changement de ton assez radical par rapport à vos autres films quand même.
Oui, alors c'est très simple. C'est qu'en fait, j'ai tellement donné dans l'absurde. J'ai fait une dizaine de films qui repose sur des procédés absurdes et des histoires impossibles dans le monde réel, que le simple fait, en fait, et ça j'en avais conscience, le simple fait d'aborder le réalisme, ça devient une surprise chez moi. C'est-à-dire que on m'a tellement vu faire n'importe quoi en quelque sorte, pour ceux qui n'aiment pas par exemple, c'est mes films sont souvent perçus comme des grands n'importe quoi, alors que c'est pas exactement ça, il y a quand même du travail et des structures.
C'est un plaisir.
Mais c'était marrant de voir qu'en fait, de retourner la crêpe, et d'un seul coup, le fait de proposer du réalisme, ça devient une immense surprise, alors qu'on baigne dans, il y en a des propositions de films réalistes, il y en a à l'appel. Mais voilà, venant de moi, ça faisait un petit truc en plus. Après, c'est ça qui est drôle, hein, c'est que en France, j'ai lu plein d'articles qui expliquent que le film est absurde. Tellement les gens sont habitués, en fait.
Essaye de trouver.
On y voit une forme d'absurdité, alors que pas du tout. Le film est complètement plausible. C'est un truc qui pourrait se passer. Alors effectivement, est-ce que les spectateurs réagiraient comme ça dans une vraie prise d'otage? On n'en a aucune idée. On n'a pas envie de le savoir. De toute façon, c'est la prise d'otage dans un lieu de spectacle, c'est un truc terrifiant. Moi, j'en ai fait un truc rigolo et touchant à un moment. Mais c'est effectivement ce qui se passe à l'écran, c'est plausible. On n'est plus dans le domaine du fantastique ou de l'impossible.
Alors, parmi vos comédiens, on l'a dit bien entendu, Raphaël Quenard, époustouflant. Pio Marmaille, bon, avec qui vous avez refait le Dali par après, donc Blanche Gardin, avec qui vous aviez déjà travaillé, Sébastien Chassaigne, ce sont des gens qui ont fait de la scène au préalable et pas mal d'ailleurs. Est-ce que ça les a aidés, ça vous a aidé pour la conception de ce film?
Alors non, oui, pour la fabrication, la mise en boîte, puisque effectivement, comme je l'ai tourné en 6 jours, j'ai décidé de le faire en 6 jours pour réellement aborder le temps réel et faire jouer les comédiens sur la longueur. Parfois, on enregistrait des tronçons de 15 minutes sans s'arrêter. Et effectivement, pour pouvoir jouer de cette façon-là, il faut avoir une expérience de la scène. Donc, Raphaël Quenard, je suis pas certain de son passé au théâtre. Je crois qu'il a une petite formation ou je sais pas quoi. Mais bref, Blanche Gardin, effectivement, elle est habituée à être sur les planches. Sébastien Chassaigne aussi. Et Pio Marmaille, il vient de là aussi. Donc, effectivement, je pense que ça nous a tous aidés à envisager ces grands tronçons de comédie très longs avec beaucoup de textes, puisqu'au final, c'était finalement comme faire du théâtre, puisque mon film se déroule en temps réel, comme une pièce de théâtre.
Parlez justement en temps réel. Une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action, règle des trois unités du théâtre, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'au dogme de Lars von Trier? Vous êtes référent cinéphile ou...
Pour ce projet-là, moi j'ai toujours une référence en tête. Je peux vous quasiment les citer sur tous mes films. Je vais en prendre un au hasard, le film Mandibule avec David Marseille et Grégoire Ludig. Ma référence, c'était un film des frères Cohen qui s'appelle No Country for Old Men. Ça n'a rien à voir, mais j'avais la même volonté de faire un film sans musique, avec de la tension, dans des paysages un peu désertiques. Bon, bref, il y a toujours une référence. Sur Yannick, je dois confesser que c'était plutôt une envie de repartir à zéro, comme si c'était mon premier film, comme si je voulais dénuder complètement mon cinéma de tous les gadgets pour me concentrer uniquement sur une performance de comédien. Voilà, donc je n'avais pas de dogme ni de référent en tête. Je sais que d'autres cinéastes ont abordé ce temps réel et cette lecture, cette façon de faire du cinéma qui est différente, mais je n'avais personne en tête, non.
En fait, ici, Vous avez même cassé votre tirelire, indépendamment des frères Verat qui étaient vos habituels producteurs. Mais là, vous vous êtes carrément mouillé votre chemise. C'était pour vous faire plaisir, comme vous dites, une sorte de sortie de route, ou est-ce que c'est pour donner un plaisir supplémentaire, une cerise sur le gâteau à vos admirateurs? Une idée m'est venue, c'est un peu comme le bonus du 45 tours du double vinyle de Stevie Wonder.
Il y a un côté effectivement, il y a un côté bonus. Après, le fait de produire ce film en dehors de l'industrie, c'est-à-dire qu'effectivement, alors moi j'ai pas cassé ma tirelire, moi j'ai juste simplement fait le film gratuitement. C'est ça ma contribution à la production. Mais les frères Verag et Hugo Sélignac se sont associés pour financer ce truc sans aide. C'est-à-dire ils ont fait ça avec des fonds propres, c'est-à-dire des sous de leur société, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, c'est très rare, c'est une pratique de l'ancien temps, les producteurs qui sortaient leur chéquier, etc. Aujourd'hui, le système de production est tel que un producteur, si travaille bien, il n'a jamais à sortir un euro de sa société, il ne fait que travailler avec l'argent des autres. Là, j'ai forcé ces producteurs à le faire autrement pour créer une nouvelle situation, en fait, pour créer une situation dans laquelle on a encore plus de liberté, puisque on a le droit à l'échec. C'est-à-dire que puisque c'était une tentative risquée et hors du commun, il fallait à tout prix qu'il y ait ce droit à l'échec. C'est-à-dire, peut-être qu'il n'y a rien au final. Mmh. On a commencé le lundi. C'était impossible de savoir si on allait aller au bout, déjà. Puisqu'on avait 6 jours, vraiment. Sinon, ça allait coûter trop cher et c'était pas faisable. Donc, en fait, voilà, c'était aussi pour créer une nouvelle liberté, un truc, voilà, je me suis dit que dans cette configuration de risque total, si on allait être chanceux, et c'est le cas, trouver une pépite, trouver un truc qu'on trouve pas habituellement dans une situation de confort.
Et chez vous.
Voilà.
Et dans votre film.
Oui.
Vous avez dit, il n'y a rien de plus beau dans l'art que de ne pas réfléchir. Or, quand on voit un film aussi abouti et construit que Yannick, que vous avez écrit et mis en scène, vous êtes directeur de votre propre photo, vous avez fait votre montage vous-même, je me dis que c'est pas possible. Il y a de la pure réflexion quand même là.
Alors je vous certifie que le seul moment où la réflexion est en route chez moi, c'est au moment du montage, c'est au moment de prendre des décisions. Est-ce que je garde ce moment? Est-ce que je le supprime? Est-ce que je le transforme? Est-ce que je change ce regard? Est-ce que j'en mets un autre? Est-ce que j'oublie cette scène? À ce moment-là, on se pose tout un tas de questions, mais tout ce qui a concerné l'écriture, les répétitions et le tournage, effectivement, on n'avait tellement pas le temps qu'en fait, il n'y a pas de réflexion. On était comme des animaux en cage, forcés de faire un film, d'aller au bout, parce que sinon on allait être humilié, ça allait être embarrassant. Si on avait tourné que la moitié, par exemple. Moi, je m'étais mis en tête, je peux le faire en 6 jours, je vais le faire en 6 jours. On l'a fait en 6 jours. On avait même eu le temps de tourner une petite bande-annonce. Voilà, c'était une sorte de challenge un peu bête, on va dire, mais qui a porté ses fruits. Et non, je vous promets que même l'écriture, chez moi, l'écriture, c'est un truc où il n'y a pas de réflexion, c'est que de l'inconscient. C'est-à-dire que moi, je fabrique des personnages et je les fais parler, et puis ça sort tout seul. Et au contraire, quand je commence à réfléchir trop, c'est là où j'abîme mes scénarios et c'est là où je perds le sel de ce qui fait l'intérêt de mes films. J'ai l'impression que c'est tout ça est complètement inconscient. Donc quand on vient m'expliquer que j'ai fait un film politique, etc., c'est un truc que je découvre en même temps que tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai simplement créé des personnages et je leur ai donné du texte, puisque c'est ça qui m'intéresse avant tout. Après, ce que ça raconte et ce que les gens reçoivent, c'est indépendant de ma volonté, en fait. Moi, c'est vraiment, je travaille comme ça depuis des années. C'est l'inconscient qui fait le boulot, sauf au moment du montage où là, on a le temps de réfléchir et on a le temps de se poser des questions. Mais c'est trop tard. Le film est fait. On peut l'améliorer, on peut le détruire, on peut en faire un truc moyen, mais on a le temps de réfléchir.
75 pages de scénario, quand même important. Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'impro, surtout avec cette obligation de timing qui est là?
Alors non, encore moins sur ce film-là. Et moi, c'est un truc, l'improvisation, c'est un truc qui me plaît pas plus que ça. Alors je le dis partout parce que il faut quand même donner aux gens ce qui, enfin voilà, il faut quand même gratifier les comédiens de ce film. Il y a une part d'improvisation qui est uniquement dans la façon d'exister, c'est-à-dire que le texte, les dialogues ont été respectés à la virgule, mais dans leur façon par exemple, je n'ai pas prévu que Raphaël Quenard allait, je vous dirais, trembler sur une réplique, avoir la voix qui flanche à un moment. Ça, c'est complètement de l'interprétation. Donc, pour moi, l'improvisation, elle se trouve là. Et je dois dire que Blanche Gardin m'avait déjà impressionné sur Fume et fait tousser. Elle a une faculté à improviser, elle, à rajouter des petites choses, à changer une phrase pour la rendre plus marrante ou plus intense ou plus bête. C'est la seule comédienne avec qui ça se passe bien quand ça improvise. Je dois avouer qu'effectivement, Blanche Gardin, il y a plein de petits moments dans Yannick où elle a apporté, c'est des toutes petites choses, mais qu'elle a inventées sur le moment, sur la prise. Voilà. Donc oui, en ce qui concerne Blanche, oui. Tout le reste, j'ai envie de vous dire que non, l'improvisation, c'est un truc c'est un autre langage. Moi, mes films sont écrits. Le texte, en tout cas, ce qui sort de la bouche des comédiens, c'est complètement écrit. Après, comme je vous disais, il y a dans leur façon d'exister dans un plan. Par exemple, les déplacements au début de cette pièce de théâtre, quand Yannick stoppe la pièce et qu'il y a interaction entre lui et les comédiens, les mouvements que fait Pio Marmaille, ses déplacements, tout ça, c'est de l'improvisation, en quelque sorte. Ah, oui. C'est-à-dire que le texte est réel, le texte est écrit, mais lui, je l'ai laissé libre dans sa façon de se déplacer. Je lui ai pas dit, tu vas de ce point-là, il n'y a pas de croix au sol, tu te déplaces jusque-là. Non, il a vécu les scènes. Pour moi, voilà. C'est pas ce qu'on appelle de l'improvisation, c'est de l'acclimatation, ou je sais pas quoi. C'est un truc qui, c'est une nécessité pour le comédien d'exister à un moment.
Théâtre des Jazzés, j'ai lu que c'était en fait un des plus vieux théâtres de Paris. Il y a une symbolique là-dedans, ou c'est le seul théâtre qui était disponible?
Réponse B. Mais non, attention, il y avait plein d'autres théâtres disponibles, mais qui ne convenaient pas visuellement. C'est-à-dire que moi, je voulais aller dans de l'ancien et dans du charmant, parce que c'est plus agréable à filmer, parce que c'est plus authentique, encore une fois. Voilà, il y avait d'autres théâtres qui étaient plus modernes, qui étaient ravis de nous accueillir, mais qui ne fonctionnaient pas avec le film. Voilà, moi je recherchais un peu ce truc un peu poussiéreux, et surtout qui est joli à filmer. Ça, c'est un magnifique théâtre, c'est un lieu effectivement qui est très ancien. On m'a dit aussi que c'était possiblement le plus ancien de Paris. Son directeur Jean Bouquin est quelqu'un d'extraordinaire. M'a raconté qu'il l'avait reconstruit dans les années 70 pour accueillir Coluche. Il y a toute une histoire quand même.
Derrière
tout ça, qui fait qu'on baignait quand même dans une espèce de dans une ambiance assez particulière. Ça aurait pas été la même chose dans un théâtre moderne vide. Voilà, là il y avait des fantômes. Mmh. Voilà, et je pense que ces fantômes-là nous ont aidés.
Quentin, un grand merci. Donc on rappelle Yannick qui sort le 13 septembre. Merci.
Merci beaucoup.